Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 2, les versets 18 à 25. Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. » Alors, si vous voulez, on va demander au Seigneur de bénir notre étude. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons à ta sainte présence, nous sommes tes enfants. Seigneur, tu nous as aimés de toute éternité. Nous t'aimons et ce jour t'est consacré pour adorer ta sainte personne, chanter tes louanges, entendre ta sainte parole et échanger entre frères et sœurs tout l'amour qu'on se doit d'échanger. C'est un jour qui se doit d'être pleinement consacré. Alors Seigneur, on veut aujourd'hui implorer ta miséricorde, ta bonté, la bénédiction de ton esprit afin de nous préparer le cœur, l'intelligence et tout l'être à la réception de ta parole, à sa compréhension et surtout à son application dans notre vie de tous les jours. C'est ce qu'on te demande par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, j'ai intitulé aujourd'hui le sermon de façon assez simple, « Les trois dons de Dieu à Adam ». On voit dans le texte qu'il y a carrément trois dons que le Seigneur Dieu donne à Adam. Et quels sont-ils, selon le texte? Le don de l'autorité. On va voir de quelle façon, dans les Écritures, ça se manifeste par le fait qu'il a donné à Adam le pouvoir de donner des noms aux animaux. Il a donné aussi la femme, qui n'est pas la moindre des choses. Un cadeau d'une valeur inestimable. Et il lui a donné, finalement, le don du mariage, dans le verset 24 et 25. Vraiment, le mariage est institué dans le verset 24 et 25, comme on va voir que le Seigneur Jésus lui-même, quand il parle du mariage, il réfère à Genèse 2, versets 24 et 25. Alors, il y a trois dons là-dedans. Il lui a donné une autorité, il lui a donné la femme, et il lui a donné l'institution du mariage. Alors, dès les deux premiers livres de la Genèse, les deux premiers chapitres de la Genèse, on a deux institutions divines, qui est le sabbat et le mariage. Alors, pour réviser un peu ce qu'on avait étudié jusqu'ici dans le chapitre 2, rappelons que dans les versets 1 à 7, on avait appris que Jéhovah Elohim avait créé Adam de la poussière de la terre, et qu'il avait soufflé dans ses narines un souffle de vie, et que les Écritures nous apprennent que par ce fait même, il était devenu une âme vivante. Donc, dans les premiers versets, 1 à 7, Dieu s'était révélé comme bienfaiteur, comme pourvoyeur et comme créateur. Maintenant, dans les versets 8 à 17, c'était dans la leçon précédente, on avait observé que Jéhovah Elohim avait révélé le paradis terrestre, dans lequel il avait placé l'homme pour son bonheur et pour son plaisir. Il avait aussi appris que l'homme avait été mis sous probation, c'est-à-dire qu'il avait été mis à l'épreuve en lui disant ce qu'il ne devait pas faire. Il y avait juste une chose qu'il ne fallait pas qu'il fasse, c'était de manger de l'arbre à la connaissance du bien et du mal. Alors, il l'avait mis sous probation. Et les conséquences de la désobéissance lui avaient été très clairement établies. C'était la mort. Et on sait par le reste des Écritures que ce n'était pas uniquement la mort physique, c'était la mort physique, bien entendu, la mort spirituelle et la mort éternelle, s'il demeurait dans cet état-là. Et on sait que le but de toute Genèse, les trois premiers chapitres, c'est d'abord de nous présenter comment Dieu a créé le monde, comment il a créé l'univers, comment il a créé la terre, comment il a créé tout ce qu'il y a sur la terre, les animaux et tout cela, et qu'il l'avait placé dans des conditions idéales avec le mise à l'épreuve. Et on va arriver finalement au chapitre 3, qui dans le fond, c'est des chapitres fondamentaux à la compréhension du reste des Écritures. Parce que ça nous montre comment on est tombé, comment les hommes sont tombés dans le péché, comment Dieu a pourvu à la grâce pour faire sortir les hommes de leur état de péché. Alors aujourd'hui, dans les versets 18 à 25, on va voir les derniers éléments de la mise en scène. C'est comme si Dieu est en train de nous préparer la mise en scène pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment on est venu sur la terre, comment on est tombé. Et ensuite, il va nous montrer comment, lui, le plan qu'il a prévu pour relever l'humanité, du moins les élus. Alors aujourd'hui, vraiment, on complète les derniers éléments de la mise en scène, les dons que Dieu fait à Adam pour compléter le tableau du pourquoi et du comment de l'entrée du péché dans le monde. Alors, verset 18 à 20, des fois, on peut lire ce passage-là et on ne voit pas nécessairement le don de l'autorité. On avait vu dans les versets précédents que Dieu avait dit, il avait donné à Adam le don de la domination. Il a dit, tu domineras sur la création, sur la terre. Mais l'autorité, la domination et l'autorité, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, il lui donne l'autorité. On va voir tantôt comment dans les Écritures le Seigneur nous montre que donner un nom à quelqu'un, c'est avoir de l'autorité sur lui. On va voir différents exemples là-dessus. Alors aujourd'hui, on va voir le premier don, il lui donne de l'autorité. Alors dans le chapitre 1, au verset 28, le Seigneur nous avait fait savoir qu'il avait accordé la domination sur les créatures à l'homme. On va le regarder, le verset 28, chapitre 1. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dominer, c'est qu'il avait donné, l'homme serait en haut de la création, c'est lui qui dominerait sur tout le, comme on le voit, les poissons, les oiseaux, tout animal qui se meut sur la terre. Alors la domination, maintenant, on va la voir accompagnée de l'autorité qui lui est déléguée ici par Jéhovah Elohim lui-même. Alors, on n'oublie pas l'expression Jéhovah Elohim. On sait que Jéhovah, c'est le Dieu qui rentre en relation, et Elohim, c'est le Dieu trinitaire. Donc, c'est comme le Dieu trinitaire qui est en relation avec son peuple, lui donne encore des dons avant qu'on sache comment l'homme est tombé. Alors, c'est un don qui est vraiment délégué de façon divine, parce que dans le verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, cette délégation va se manifester par le fait que Dieu donne à l'homme et à la femme le pouvoir de donner des noms. Mais, pour qu'il puisse le faire, bien entendu, il fallait que la femme soit créée, parce que c'était les deux qui l'ont donné. Alors, Dieu sait toujours ce qui est bon pour nous. Quand il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », c'est sa déclaration, alors il sait de quoi il parle. Parce que l'être humain est un être social et qu'il a besoin de société, alors il lui donne ce qu'il faut. Alors la sociabilité, il va lui donner la femme pour qu'il puisse le faire, Adam, parce qu'on va le voir, que dans le rôle que le Seigneur assigne au mariage, le fait qu'un homme soit avec une femme, c'est pour échanger. Échanger de l'aide, échanger du savoir. Quand on est en couple, on échange parfois des informations, du savoir de toute forme. On échange, bien entendu, de l'affection. On échange aussi des conseils. On s'occupe de notre bien-être mutuellement. Et on s'accorde mutuellement de la protection. Pourquoi l'Éternel... Bien entendu, Adam était dans le jardin, il était dans des conditions idéales. On pourrait dire, mais pourquoi il avait besoin d'une femme? Parce que tout seul, il semble que Dieu ait décidé qu'il fallait qu'il ne soit pas tout seul. Parce qu'on voit qu'en les créant hommes et femmes, il avait prévu probablement la reproduction de l'espèce humaine. Dans Ecclésiaste, chapitre 4, versets 9 à 12, on voit quelque chose que le Seigneur nous donne par rapport au fait d'être avec un autre être humain dans le mariage. « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne seront pas facilement. » Alors, la fameuse idée de la corde à trois fils, quand on est marié, il y a le mari et la femme, quel est le troisième fil? C'est le Christ. Alors, le Seigneur lui-même, alors si on a la corde à trois fils, ça ne seront pas facilement, parce que à cause du troisième fil. Parce que sans le troisième fil, des fois, ça pourrait casser. Alors, on voit ce besoin qu'on a l'un de l'autre comme être humain. On le voit aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 21 à 27. Ça dit, « L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alors, il y a une vérité importante de nous rappeler qu'on est des membres de Christ, tous individuellement. Alors, comme il dit, là, il ne peut pas dire « j'ai pas besoin de la main ne peut pas dire « j'ai pas besoin du pied ». On est tous interdépendants en Christ, et Christ, comme nous le dit le texte. Alors, le don d'autorité, il est accordé à cause du fait que dans les versets 19 et 20, on a la fameuse autorité donnée par Dieu de donner des noms aux animaux. Alors, l'Éternel Dieu forma de la terre. Alors, il a formé la même manière qu'il a formé l'homme de la terre. Il a formé les animaux. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Alors, c'est de la volonté divine que les animaux... Comment ça s'est fait exactement, le texte ne nous dit pas, là. Mais Dieu a fait en sorte que chaque animal se présente devant. Et alors, ça prenait de l'intelligence. Parce qu'on va voir tantôt que donner un nom à quelque chose, selon les Écritures... Aujourd'hui, souvent, on va donner un nom. Pourquoi ma mère m'a appelé Marcel? On n'a aucune idée. Mais à l'époque... Donner un nom à quelqu'un, c'était vouloir définir jusqu'à un certain point son identité, son essence, qu'on pourrait dire. On aurait dit qu'en naissant, en observant comment tu te présentais, la manière dont tu étais construit, bâti, tu pouvais déjà déterminer un peu le caractère de la personne. Alors, on va voir que dans les Écritures, nommer quelque chose, ça n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, bien souvent, pour nommer quelqu'un, on prend un dictionnaire de noms et on fouille là-dedans, on essaie d'en trouver un qui est le plus original que les autres. Moi, j'ai remarqué parfois des noms, des personnes donnent des noms à leurs enfants, parfois que Moi, je ne voudrais pas donner ce nom-là à mes enfants, ça c'est sûr, certain. Mais pourquoi? On dirait que les gens, aujourd'hui, ont comme la démangeaison des choses originales. Là, ils s'achètent des dictionnaires, ça dépend, avec des milliers de noms dedans, puis là, ils s'en cherchent un qui font les affaires. Alors, ce n'est pas la façon de nommer biblique. Parce qu'on va pouvoir tantôt donner différents exemples que quand on donne un nom à quelqu'un, ça a une signification profonde. Comme quand Dieu a dit qu'il ferait venir le Christ, il a dit son nom sera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Alors, il y a quelque chose de profond dans le nom. Et quand on étudie l'Ancien Testament, c'est souvent important de regarder la signification du personnage, parce qu'il y a toujours un nom, comme Daniel, le mot « elle », c'est un nom de Dieu. Alors, tous les noms de l'Ancien Testament, en général, veulent dire quelque chose. Quand vous avez remarqué, par exemple, que Abraham portait un nom jusqu'à ce que Dieu dise « maintenant, ton nom ne sera plus Abraham, va être Abraham ». Même chose avec Sarah. Sarahi, ton nom va être maintenant Sarah. Et les significations des noms sont importantes parce qu'ils déterminent un caractère de la personne. Alors, on le sait, les créatures animales ont été créées par Dieu lui-même. C'est lui qui, souverainement, les a emmenées vers l'homme pour qu'il leur donne des noms. Et les Écritures nous enseignent clairement que c'est un acte d'autorité que de pouvoir imposer des noms et que c'est un acte de suggestion de les recevoir. Pourquoi c'est un acte d'autorité? Parce que mon père, ma mère se sont entendus pour m'appeler Marcel. Moi, quand je suis venu au monde, je n'ai pas dit, ben là, j'aimerais bien choisir mon nom. C'est un acte de suggestion. Donc, leur décision, c'est moi qui la reçois. Alors, il y a un acte d'autorité en le donnant et un acte de suggestion en le recevant. On va prendre un exemple biblique très concret de cela. Dans le livre de Daniel, au chapitre 1, au verset 7, on sait que donc il y avait Daniel, mais il y avait trois compagnons aussi. Le roi, il fait venir ces gens-là, c'était les dignitaires du pays, là. Ces gens-là, c'était Daniel. Alors on sait que quand Dieu avait permis que son peuple aille à Babylone, c'était le roi, quand les recevant, leur donnait un nom. Et quand vous allez étudier le livre de Daniel et que vous regardez les significations des noms, les noms étaient des noms de dieux babyloniens. Shadrach, Meshach, Abednego. Souvent, on va se souvenir plus du nom païen, si je vous demandais les trois noms hébreux. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis déjà posé la question, pourquoi on retient avec tant de facilité les trois noms donnés, les trois noms païens de ces jeunes hommes-là, et qu'on ne se souvient pas des noms hébreux, qui pourtant, c'était des noms plus qui signifiaient quelque chose au point de vue spirituel. Alors, dans Daniel 1, versets 6 et 7, « Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania et Michaël, et Azaria. » Donc, Daniel avec ses trois compagnons, qui s'appelaient Anania, Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Autrement dit, le roi, quand il recevait ces jeunes hommes-là, qui étaient la crème de la crème sociale hébreu, lui, il disait, non, tu ne porteras pas ce nom-là ici. Ici, tu vas porter le nom d'un de mes dieux. Alors, il y a une signification très profonde là-dedans. C'était comme en voulant dire, maintenant, tu n'appartiens plus au dieu des Hébreux, tu appartiens maintenant au dieu babylonien. Un autre exemple des Écritures qui nous parle de l'autorité de donner un nom à quelque chose. Si je vous demandais les noms des étoiles qui sont par centaines de millions, vous me diriez, je ne le sais pas. Et pourtant, dans le psaume 147, verset 4, ça nous dit, en parlant de Dieu, il compte le nombre des étoiles. Premièrement, moi, même si je l'ai dit il y a quelques semaines, je ne m'en souviens pas du nombre des étoiles, c'est un nombre tellement grand. Mais lui, il compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes des noms. Pour Dieu, une étoile est différente d'une autre. Il leur donne un nom et le nom qu'il lui donne, c'est pas un nom au hasard, c'est un nom significatif par rapport à quelle est cette étoile-là, comment elle est construite, quel est son rôle, quelle est sa place, etc. Pour Dieu, donner un nom, c'est avoir autorité sur la chose. Juste pour vous donner dans l'exemple, dans le dictionnaire biblique, qu'est-ce qu'on dit par rapport au nom? Si jamais vous l'avez, ce dictionnaire-là, qui s'appelle le Nouveau Dictionnaire Biblique Révisé et Augmenté, aux éditions Emmaüs, 2012, sous l'article « Nom ». Si vous avez ce gros dictionnaire-là, allez dans « Nom » puis lisez tout l'article qu'on vous rappelle. Là, je n'ai pas pris, je n'ai pas tout donné qu'est-ce qu'ils disent là-dedans. Là. J'ai voulu tirer juste l'aspect que quand on donner un nom à quelqu'un, c'est de lui donner de l'autorité. Alors, sous l'article « Nom », dans ce dictionnaire-là, à la page 213, on mentionne les faits suivants. En parlant du nom, ça dit « son importance », l'importance du nom, à l'époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Il y a une relation directe entre le nom et la personne ou la chose nommée. Alors souvent dans les Écritures, d'une façon particulière, même dans le Nouveau Testament, souvent on oublie des fois d'aller vérifier un nom d'un personnage, d'un prophète, comme Nathanaël, je ne m'en souviens plus c'est quoi ça veut dire, là. Mais si on se donne la peine d'aller voir dans des dictionnaires, souvent ça éclaire notre compréhension du rôle de cette personne-là dans l'histoire biblique. Parce que les noms, à cette époque-là, comme ça se dit, c'était pas donné au hasard, ça avait une importance considérable et ça avait une relation avec la personne. Elle dit, le nom participe en quelque sorte à son essence qu'il a pour but de révéler. Voyez-vous, les Indiens, quand ils appelaient quelqu'un, ils l'appelaient, je ne sais pas moi, aigle noir, ou ils l'appelaient perle rose, je ne sais pas de quoi, là. Mais il y avait, en observant le bébé, ils voyaient quelque chose de l'enfant qui deviendrait une caractéristique de son être. Alors aujourd'hui, on ne fait plus ça, on donne des noms n'importe comment, mais à l'époque biblique, d'une façon particulière, donner un nom à quelque chose ou à quelqu'un, on a pris tout à l'heure l'exemple d'Abraham puis Abraham. Pourquoi il a changé le nom d'Abraham à Abraham, c'est-à-dire Abraham à Abraham et Saraï à Sarah. Et on pourrait prendre beaucoup d'exemples, beaucoup d'autres exemples dans les Écritures où le Seigneur nous montre qu'un changement de nom, ça signifie quelque chose de profond par rapport au développement de cette personne-là dans son histoire. Pour donner un exemple très concret, Ésaïe, chapitre 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. » Bien sûr, dans le contexte, on parle de la venue du Messie, de Christ. Il dit... Et elle, il parle de la Vierge, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alors on pourrait se dire, bon, on va l'appeler Emmanuel. Mais si on se donne, dans le Nouveau Testament, on a la signification qui nous dit, qui veut dire, pourquoi le Seigneur prend la peine de nous dire, de traduire le nom pour nous le faire comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par ça. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Donc, voulait révéler que le Christ, le Messie, serait Dieu lui-même avec les hommes. Donc, dans son nom, Emmanuel, c'était une manière de révéler quelque chose d'important par rapport au Messie. Mais on voit que malgré le fait que Dieu a permis que Adam et Ève, avec leur intelligence, puissent identifier... Imaginez-vous, ça a dû être long. Bon, pourquoi il a appelé un moineau? Puis pourquoi il a appelé une girafe? Puis pourquoi il a appelé une panthère? Pourquoi il a appelé... Il devait avoir des raisons en arrière de tout cela. par l'observation du caractère, de manière que l'animal était construit. Et imaginez-vous, il parle qu'il a donné des noms à tout. C'était un travail qui devait être exigeant au point de vue intellectuel, de regarder, lui est fait de telle façon, et donner un nom, c'est lui attribuer une certaine autorité. Mais le Seigneur, après avoir fait tout passer les animaux devant lui, il se rend compte, il lui dit dans le verset 20, la deuxième partie, « Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. » Il a regardé tout ça, puis il a dit, il a pu donner des noms à tout ça, mais ça lui a fait prendre conscience qu'il n'y avait pas personne pour partager ces choses avec lui. Alors, le verset nous indique que malgré tout le côté intéressant et fascinant de nommer les animaux, cela ne pouvait pas procurer à l'homme une satisfaction et un plaisir similaire à celui du compagnonnage d'une femme. Il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Maintenant, dans le verset 21 et 23, là, il a fait le deuxième cadeau. L'autorité, c'était quelque chose, mais là, il nous a donné la femme. On l'a dans l'assemblée ici. C'est un don de Dieu à Adam. C'est ce que ça dit dans le texte. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Alors, dans le verset 21, on peut dire une chose. C'est un don merveilleux. Pourquoi c'est un don merveilleux? Parce que c'est une création de l'Éternel lui-même. Autant Dieu avait créé de façon directe l'homme, c'est encore de façon directe que Dieu crée la femme. Alors, la femme partage la même nature que l'homme et elle le complète en lui apportant ce qui lui manque. Donc, à quelque part, Dieu voyait que l'homme et la femme étaient des êtres complémentaires. Il ne dit pas « je vais t'emmener une esclave », il dit « je vais t'emmener une aide ». Quelqu'un qui t'aide, ce n'est pas quelqu'un qui est à ton service. Alors, il n'est ni un être inférieur ou de second rang. Alors, dans notre récit, l'homme est plongé dans un profond sommeil, si bien qu'il n'est pas témoin de la création de la femme. Parce que quand il s'est réveillé, il a vu qu'il y avait une femme devant lui, mais il n'a pas vu comment Dieu a fait ça. Le texte nous dit comment Dieu l'a fait, mais lui, personnellement, il n'a pas vu comment Dieu avait procédé. Alors, le simple fait d'être apparu le premier ne confère pas à Adam aucun avantage dans ce domaine-là. Dieu intervient personnellement dans sa création, comme dans celle de l'homme. Il la crée à partir du côté d'Adam, si bien qu'elle n'est ni son maître, ni sa servante. Elle est son égale, son vis-à-vis, une compagne qui lui correspond parfaitement. Un don merveilleux, donc, parce que divin, dans le verset 22, un don aussi de complémentarité. C'est assez, quand on lit les commentaires par rapport au fait de la côte, là on rentre dans toutes sortes de détails techniques, c'est assez intéressant de lire ça des fois. Il y en a qui disent que les traducteurs auraient pas dû dire côte, ils auraient dû dire côté, était pris du côté, mais là ils rentrent dans toutes sortes de détails techniques de la langue hébreu, que je voulais vraiment pas vous rentrer là-dedans, mais il reste que les Écritures nous apprennent qu'elle a été prise du côté de l'homme. Que la côte, ici, on prie la côte. Et quand on regarde dans toutes les traductions, que ce soit anglaise ou française, ça a toujours été le mot côte qui a été utilisé. Alors là, aujourd'hui, il y en a qui ont comme les oreilles leur démangeant, qui cherchent des nouveautés, cherchent à dire, bon, ça aurait dû être traduit côté, puis là, ils vont chercher toutes sortes d'arguments. Moi, j'avoue que c'est pas des choses qui me passionnent bien fort. me dit, le Seigneur, il voulait pas qu'on sache les détails de ça. Il voulait juste qu'on sache que la femme avait été prise de l'homme, que c'était lui, son opération, qu'il avait fait lui-même. Alors Dieu lui donne ici un don merveilleux, mais aussi un don de complémentarité. Il y a vraiment l'idée de complémentarité. Si on va dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, dans les versets 3 et 8 à 12, on voit que dans l'idée de Dieu, il y a l'idée de l'ordre, mais sans qu'il y ait inégalité. Parce que dans la doctrine de la soumission de la femme ou de l'obéissance que la femme doit à l'homme, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des incompréhensions qui font en sorte que la relation peut être fauchée. Dieu, quand on regarde Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les Écritures nous apprennent de façon très claire qu'ils sont égales. Pourtant, même dans la relation de la Trinité, l'autorité, le Père, le Fils, il y a de l'ordre, même dans l'être même de Dieu. Alors, quand Dieu dit que la femme doit soumission à son mari, l'idée n'est pas qu'il est supérieur ou qu'elle se doit de le servir comme un esclave sert son maître. C'est Dieu est un Dieu d'ordre, autant il y en a même dans l'être même de Dieu, autant il veut que sur la terre il y ait un ordre. Dans 1 Corinthiens 11, verset 3, c'est dit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Donc, comme homme, mâle, nous on a un chef. C'est Christ. Alors Christ, les choses qu'il peut demander à un homme sont tellement variées et tellement larges et tellement profondes que franchement, allez, après ça, il dit que l'homme est le chef. Alors, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même, l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Voyez-vous, il prend un homme, il tire la femme de son côté, mais après tous les hommes, il n'y a aucun homme qui vient au monde qui ne passe pas par la femme. Alors c'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, car de même que la femme a été tirée de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Le fait qu'il y ait des femmes, c'est Dieu lui-même qui l'ait permis. Puis le fait que nous, on existe, Dieu a permis qu'on existe par l'intermédiaire de la femme. Alors, il y a un danger à trop mettre les emphases sur les différences de sexe et de rôle au point de suggérer que l'homme est essentiellement différent de la femme. Ce sont tous les deux des êtres humains. Il ne faut pas non plus insister à outrance sur les ressemblances au point de gommer les différences, comme on est porté à le faire aujourd'hui. La mentalité unisexe, qui a l'air à vouloir nous dire qu'il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme, il y en a, mais ce n'est pas des différences d'essence, c'est des différences de rôle que le Seigneur a voulu donner. Alors, l'homme et la femme ont une structure physique, mentale et psychologique différente. Je sais qu'aujourd'hui, il y a bien du monde qui cherche. Alors, il y a des tonnes de livres qui ont été écrits sur le sujet. Mais les Écritures nous montrent que la structure physique de l'homme et de la femme n'ont pas besoin d'observer bien longtemps. Vous savez, à se promener dans la société, vous allez voir que la plupart des hommes, il y a des exceptions dans tout le temps. Il y a toujours des femmes qui sont plus bâties, plus fortes. Mais en général, la structure physique de la femme est différente de celle de l'homme. Ne serait-ce que son sexe, mais il y a bien d'autres choses. Après ça, de la même chose du point de vue mental et du point de vue psychologique. Alors, il faut respecter les différences entre l'homme et la femme telles que Dieu les a voulues à l'origine, sans pour autant oublier leur nature humaine commune. Alors, au lieu d'utiliser les différences pour nourrir la rivalité, acceptons-les comme parfaitement complémentaires et se correspondant harmonieusement. Alors, les différences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales ou qu'elles soient psychologiques, c'est dans un but de complémentarité. Dans le verset 23, on a vraiment... Donc, c'est un don merveilleux, un don complémentaire dans le verset 23. Et l'homme dit, à partir du moment qu'il a été réveillé, l'homme dit, « Voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. » Alors ici, il ne l'appelle pas Ève. Il l'appelle Isha. Ish, c'est le mot homme pour dire Adam. Le mot Isha, c'est le mot qui veut dire en hébreu la femme dans son dans sa généralité. Parce qu'on va voir le mot Ève va apparaître plus tard. Mais ici, ça nous dit, et l'homme, après qu'il l'a vu, il dit on l'appellera femme. Dans l'hébreu, c'est Isha. Donc, c'est la femme, c'est l'être humain femelle. L'autre, c'est l'être humain mâle. Ish, c'est Adam, l'être humain vivant mâle. L'autre, c'est l'être humain vivant femelle. Ça, Dieu dit qu'ils avaient créé homme et femme. Alors, c'est ça. Isha signifie humain féminin, tandis que Ish signifie humain masculin. Alors ici, quand il dit qu'il va l'appeler femme, il parle d'elle comme dans son genre féminin en général. C'est comme s'il disait, voici devant moi, le genre féminin vient d'être créé par le Seigneur. Alors on sait que Dieu s'y avait voulu. Il aurait pu créer la femme directement de la poussière, exactement comme il a fait avec Adam. Pourquoi il a voulu qu'au lieu de le faire de cette façon-là, il a voulu la prendre de la côte d'Adam et la former? Bien entendu, si on se mettrait à réfléchir un peu et à méditer, il y a sûrement des raisons pour tout cela. Alors, et je pense qu'il nous enseigne par sa façon d'agir, et le Nouveau Testament attire l'attention sur l'ordre que Dieu a voulu amener. Alors, quand il dit « l'homme est le chef de la femme » et qu'il doit occuper une position de direction. Alors, le Nouveau Testament décline les implications de cette position dans le foyer comme dans l'Église. Dans Éphésiens 5, versets 22 à 25, ça peut défriser beaucoup de femmes aujourd'hui, mais c'est que c'est mal compris. Quand on comprend mal qu'est-ce que les Écritures veulent dire, on peut... Alors, quand il dit dans le verset... chapitre 5, verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Ça n'implique pas une supériorité. C'est un peu comme dans une compagnie, quelqu'un forme une compagnie, ce sont trois gars qui forment une compagnie, puis on dit, « Bon, toi, tu vas être le président. » Est-ce que ça implique, à cause de tes présidents, que tu es supérieur? Aucunement. Ça implique que, dans toute organisation, si petite soit-elle, ça demande de l'ordre. Alors, il demande que quelqu'un qui soit le président. Un peu comme le Seigneur veut, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Et là, il termine le verset 25, et c'est là que ça rétablit véritablement l'équilibre. « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. » Alors, si quelqu'un voit dans le fait que Dieu a donné à l'homme ou à la femme, a demandé à la femme de se soumettre à l'homme une supériorité, il se trompe, parce que ça dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Comment il a aimé l'Église? En prenant la punition qui aurait dû être la nôtre à notre place, il nous a tellement aimés que jamais un homme ne sera capable d'aimer sa femme comme Dieu le demande ici. Parce qu'il met le standard tellement élevé que la responsabilité de l'homme d'aimer sa femme comme Dieu, comme Jésus t'a aimé, c'est plus difficile pour l'homme que à la femme de se soumettre à son mari. Vous d'accord avec ça? Parce que si je veux aimer ma femme autant que Christ m'a aimé, a aimé chacun individu qui sont ici ce matin, a aimé l'Église, il va falloir que je m'attelle et que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'aime, mais il faudrait que je l'aime encore plus que ça parce que le standard est tellement élevé que ça serait difficile de l'atteindre. Et dans Colossiens 3, on revient encore avec cette idée-là. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Et là, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Le rôle de chef n'implique pas nécessairement une inégalité. Le Dieu qui crée l'être humain, homme et femme, à son image, respecte un certain ordre au sein de son être. Il est Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes égales et éternelles, mais un seul Dieu. Le Père occupe la position d'autorité et de direction. C'est lui qui envoie le Fils, et celui-ci fait toujours la volonté du Père, comme on le lit dans le Nouveau Testament. Christ n'était pas inférieur au Père, mais dans la Trinité, celui qui est l'autorité, c'est le Père. On ne l'appelle pas Dieu le Père pour rien. Il y a tout un concept en arrière de ça, toute une idée en arrière de ça. Et le Saint-Esprit, trois personnes qui sont égales, mais qui ont un seul Dieu. Alors, le Père occupe la position d'autorité et de direction. C'est lui qui envoie le Fils, et celui-ci fait toujours la volonté du Père. L'Esprit, selon les Écritures, procède à la fois du Père et du Fils, et glorifie le Fils qui, à son tour, glorifie le Père. Alors, il y a comme une circulation d'amour, mais l'autorité, autant dans la structure même, je ne sais pas si on peut utiliser ça, dans l'essence même de Dieu, existe. Alors, Dieu, dans l'humanité, a déjà voulu installer cette autorité qui se doit d'exister, sans ça, ça ne fonctionnera pas. Dieu sait ce qu'il fait. Alors, on va aller regarder le don du mariage, versets 24 et 25. Donc, on a vu les deux dons, l'autorité, le deuxième don, la femme, et le troisième don, le mariage. Alors, la première chose à observer du point de vue du mariage, c'est que, encore là, c'est une institution divine. Autant la femme était une création directe de Dieu, autant le mariage est une institution de Dieu également. Alors, chose à remarquer qu'elle a été instituée dès la création, dès le début. Par le mariage, Dieu empêche la société humaine d'être une société composée uniquement d'individus dispersés. Il l'organise sur une base, celle de la famille, dont la cellule est le couple uni selon sa volonté. Aujourd'hui, quand vous regardez les forces sociales qui travaillent ensemble, dans l'Amérique du Nord, en tout cas du moins, parce qu'on connaît peut-être plus l'Amérique du Nord que le reste du monde, mais l'Europe, je pense, c'est pas mal la même chose. Mais partout sur la Terre, en général, la société est basée sur la famille. Donc, l'homme, la femme qui ont des enfants et qui élèvent leurs enfants. Et tout ça crée de l'ordre dans la société. Mais si vous regardez un petit peu autour, on regarde un peu autour de nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a des forces énormes, des pressions énormes qui cherchent à détruire l'institution de la famille, parce qu'en détruisant ça, tu détruis la société par le fait même. Parce que c'est la cellule de base de la société. Alors, c'est une institution divine, verset 24, mais au verset 24 aussi, on voit que c'est une institution qui a un but. Et le but est quadruple. OK, nommez-les. Le premier but, c'est vraiment la continuation de la race. Quand il avait dit, multiplier, remplissez la terre. Donc, à quelque part, c'est que Dieu avait prévu que l'homme et la femme auraient des enfants et que ça finirait par multiplier. Donc, la continuation de la race. La deuxième, la collaboration nécessaire à l'homme qui est par essence un être social. Si je suis Dieu construit une personne qui est un être fondamentalement social et qu'il n'y a personne autour de lui, à quelque part, ça ne fonctionne pas. Donc, la continuation, à quelque part, c'est vraiment un autre rôle. L'autre, c'est l'unité des conjoints. La femme est tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme, qu'on a vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 11-12. Il nous dit que la femme a été tirée de l'homme, mais que maintenant tous les hommes viennent au monde par la femme. Alors, on a vraiment le côté, l'unité des conjoints. Alors, on a également, dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 2 à 9, l'effet de la sanctification l'un par l'autre. Alors, il y a le but du mariage est quadruple. La continuation de la race, la collaboration pour que l'aspect de sa personne qui est sociale puisse s'exercer, l'unité des conjoints, et la quatrième, la sanctification. Dans 1 Corinthiens 7, on n'ira pas lire le passage, mais le passage nous parle que un conjoint aide son conjoint à se sanctifier. N'importe qui est marié peut vous dire ça. N'est-ce pas? Notre conjoint nous aide à nous sanctifier, puis nous, on aide à notre conjoint à se sanctifier. Parce qu'on s'entraide l'un l'autre, on voit des problèmes l'un l'autre, puis on se passe des remarques, et ça a un rôle, le rôle de la sanctification. Alors, le Seigneur nous avertit dans les Écritures, de façon très solennelle, que le mariage est quelque chose qu'il veut qu'il soit honoré de tous. Allons le voir, Hébreux 13, verset 4. Hébreux, chapitre 13, verset 4. Hébreux 13, excusez. Hébreux 13, 4. 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors, le Seigneur veut que l'institution qu'il a créée depuis le début de la création, ça soit honoré de tous, et qu'il dit lui-même qu'il va juger les impudiques et les adultères. Alors, faut le prendre au mot, hein. Quand le Seigneur dit quelque chose, nous, on manque souvent notre parole, mais pas lui. Alors, on va regarder maintenant plusieurs caractéristiques du mariage selon les Écritures. Alors, dans le verset 25, alors on parle du fait que l'homme et la femme étaient tous deux nus, n'avaient point honte. Alors, il y a plusieurs caractéristiques du mariage qui sont dans les Écritures. Premièrement, on a vu tantôt que c'était une institution divine. C'est pas l'homme, c'est pas la loi, c'est Dieu qui a institué ça dès le début de la création, et que souvent les lois humaines qui sont dans différents pays sont basées sur ça. Le mariage, est-ce que c'est uniquement une légalisation des relations sexuelles et de l'instinct d'accouplement? Ou si c'est plus que ça? C'est ça, mais plus que ça. C'est plus aussi qu'un engagement formel, c'est vraiment une alliance. Le Seigneur utilise souvent dans les Écritures le terme d'une alliance entre l'homme et la femme. Un peu comme l'alliance qui s'est passée dans la Trinité concernant le salut des hommes. L'alliance, c'est vraiment un homme prend un engagement vis-à-vis d'une femme, la femme prend l'engagement vis-à-vis de l'homme. Mais aujourd'hui, si vous regardez un petit peu les observateurs de la scène sociale vont tous vous dire qu'aujourd'hui, les gens ont peur de s'engager. Les gens ne veulent plus s'engager. Ils veulent juste profiter de l'autre personne, mais sans que tu sois responsable face à l'autre personne. Alors, pourquoi Dieu appelle ça une alliance? Parce qu'il veut que ce soit un travail, une idée qui demeure. Aussi, on le sait que c'est un engagement d'amour, parce que tantôt, on a vu dans les différents versets que Dieu veut que la femme aime son mari, puis que le mari aime sa femme comme Christ a aimé. Là, on a un gros contrat, là, les hommes. On a un très, très, très gros contrat. Donc, c'est un engagement d'amour. Et ça correspond aussi aux besoins de compagnie de l'être humain. Et l'Éternel, dès le commencement, avait voulu que l'union soit durable. Si vous remarquez, le divorce, c'est une institution qui existait, là, disons, au 19e siècle et bien avant. Mais c'était exceptionnel à cette époque-là. Maintenant, c'est rendu la norme. Alors, quelque part, le péché a pris de plus en plus de place dans la société et ça s'exprime, entre autres, par cette façon-là que les gens ont de prendre un engagement face à une autre personne, solennellement, devant Dieu, souvent. Souvent, c'est fait devant Dieu. Puis quand c'est pas fait devant Dieu, c'est fait au moins devant les hommes. Mais après quelques années, souvent, que ce soit l'homme, que ça vienne de la femme ou que ça vienne des deux, ça finit par... que c'est plus une union durable. Autre fait, il faut que ce soit une union monogame. L'homme et la femme, l'homme quittera son père, l'homme quittera sa mère. Il n'a pas dit... tu vas quitter ta... Mais tu t'en trouveras une douzaine, un peu comme les... Alors, il y en a qui n'ont une douzaine. Le mariage s'est fait monogame, ça veut dire qu'un homme devrait se marier avec une femme avec un homme. Et la polygamie, c'est quelque chose qui est carrément anti-biblique. Autre caractéristique qu'on se doit d'ajouter de nos jours, qu'on n'aurait jamais dû eu besoin d'ajouter il y a quelques années, aujourd'hui, on a besoin de dire que le mariage est une union hétérosexuelle. Parce que quand tu regardes le texte, on parle de l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. On n'est pas en train de parler de mariage homosexuel. On parle de mariage entre un homme et une femme. Donc, aujourd'hui, on est rendu qu'on veut légiférer là-dessus et permettre à deux hommes de se marier ou permettre à deux femmes de se marier. Et même souvent, béni par des supposément pasteurs. Alors, quelque part, il y a quelque chose de vraiment de tordu là-dedans. Le mariage tel que voulu par Dieu, tel que défini dans le verset 24, c'est vraiment une union hétérosexuelle. Et c'est vraiment aussi une union qui normalement devait déboucher sur une nouvelle unité familiale. À moins qu'une personne soit... qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, généralement, un mariage va déboucher sur la création d'une famille. Arriver 1, 2, 3, dans le temps, c'était 10, 12, 15, 20 enfants. Aujourd'hui, c'est plus 2, 3, 4. Mais il reste que normalement, un mariage, quand il n'y a pas de maladie ou d'empêchement quelconque de nature physique, pour normalement, ça débouche sur la famille et ça correspond aux besoins que Dieu a donné que de la multiplication. Et chose qui est importante aussi, c'est de voir que c'est une institution d'avant la chute. C'est important. Pourquoi le Seigneur finit, le dernier verset qui est donné, c'est le verset 25, c'est celui qui est donné avant, qui nous raconte l'histoire, comment ils sont tombés. Alors, avant qu'ils tombent, parce que là, on est en 2:25. La semaine prochaine, on va voir qu'ils vont tomber. Mais la chute, donc, l'homme et la femme étaient tous deux nus. Premièrement, parce que les conditions atmosphériques devaient être parfaites, qu'ils ne se sentaient pas, bon, on va avoir un coup de soleil ou on va faire, il fait trop chaud, trop froid. C'était parfait. C'était juste bien. Alors, tous deux nus, ils n'en avaient point honte. La honte est arrivée quand? Après la chute, on se souvient que qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont cachés, il y avait honte. Donc, la honte s'est installée après la chute. Avant la chute, rien n'était de cet état-là. Alors, Dieu vient nous présenter le portrait de ce qui va, de tout le grand portrait, la grande situation, avant que l'homme, que Ève chute et fasse chuter son mari en même temps, et que tout cela se répercute sur toute l'humanité. C'est important de voir que le portrait que Dieu avait fait était parfait. L'homme avait tous ses besoins comblés, avait la femme avec lui, avait la domination sur les espèces, avait l'autorité de nommer. Il avait tout ce qu'il faut pour être parfaitement heureux. Mais quand il a été placé devant la tentation, ben, ils ont tombé. Et ça a eu des répercussions tellement terrible que pas sûr qu'eux, quand ils ont tombé, qu'ils ont vu vraiment tout cet aspect-là de ce que ça l'amènerait comme guerre, comme maladie, comme... Si ça leur avait été donné, que Dieu leur fasse voir, voici, je vais vous montrer les conséquences de votre geste, qu'ils auraient vu toutes les maladies, les infirmités, les misères, les troubles, les souffrances, je suis pas sûr qu'ils auraient été capables de supporter ça. Mais il reste que c'était ça quand même qui faisait entrer dans le monde. Alors, c'est une institution, il faut se rendre compte que le mariage est une institution d'une telle noblesse que le Seigneur l'utilise lui-même pour illustrer sa relation avec Israël. Dans l'Ancien Testament, Jéhovah était en amour avec Israël, et il l'appelait son épouse, et Christ appelle son Église sa femme. Alors, il prend l'institution du mariage et elle est tellement élevée au nom de Dieu qu'il l'utilise comme image pour parler de sa relation avec son peuple, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Quand on regarde, par exemple, dans Isaïe 54, verset 5, ça se dit « Car ton Créateur est ton époux. » Il parle de qui? Il parle d'Israël. Il dit, ton Créateur est ton époux. Donc, Dieu disait « Moi, je suis le mari, puis le peuple d'Israël, c'est ma femme. » Il dit « L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. » Et le même symbolisme est utilisé aussi à travers le Nouveau Testament. On prend un exemple, il y a plein d'exemples, dans Apocalypse 19, versets 7 et 8. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Les noces, normalement, c'est un mariage. Les noces de l'agneau, c'est Christ, sont venues, les noces sont venues, et son épouse s'est préparée. C'est qui son épouse? C'est nous, c'est l'Église. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voyez-vous, le mariage est tellement en haute estime de part de Dieu qu'il utilise l'institution même que lui-même a créée pour illustrer les relations d'amour qu'il a avec son peuple, dans l'Ancien Testament Israël, dans le Nouveau Testament avec l'Église. Alors, l'institution du mariage existe depuis ce temps-là. Alors, trois applications que je vois dans le texte. Rendons grâce à Jéhovah Elohim de nous avoir donné la domination sur les créatures animales et d'avoir honoré la race humaine en lui donnant le privilège et l'autorité de nommer les animaux. Le premier don. Le deuxième don, que le Seigneur soit béni d'avoir offert à l'homme cette précieuse aide et cette merveilleuse collaboratrice et compagne qu'est la femme. Et troisième application, soyons reconnaissants à Dieu d'avoir institué le mariage, une grande bénédiction pour l'humanité. Prions pour que nous honorions le mariage pour sa plus grande gloire. Parce que si on honore le mariage, on donne de la gloire au Seigneur. Que notre grand Dieu soit loué, béni et adoré éternellement. Amen.